je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Dans cette émission, nous revenons sur la demande d'extradition par la Hongrie de Gino, militant antifasciste. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités hongroises. Elles l'accusent d'avoir agressé des militants néo-nazis en marge d'une manifestation antifasciste à Budapest en février 2023. La justice française devait se prononcer ce mercredi 12 sur l'extradition de Gino. Les accusations dont les militants et militantes antifascistes font l'objet sont complètement extravagantes, les peines encourues disproportionnées et les conditions de détention inhumaines et dégradantes en Hongrie. Dans ce contexte, livrer un militant antifasciste aux autorités hongroises signifierait que la France est prête à collaborer avec le régime d'Orban. Gino est un camarade antifasciste qui doit être remis en liberté. Vous allez entendre les prises de parole qui ont été faites lors de la conférence de presse du mardi 11 février à la Ligue des droits de l'homme, et une partie des prises de parole qui ont eu lieu devant le palais de justice le 12 février.
J'ouvre cette conférence donc au LDH. Je vous ai dit que nous étions dans les locaux nationaux de la Ligue à propos de la décision qui doit être rendue mercredi à propos de l'extradition de Gino. La réunion va se dérouler donc avec la participation du collectif pour la libération de Gino, qui parlera en premier, de ses deux avocats, Marie Natch et Yuri Krasulia, et d'Éric Villard et Laurent Binet, qui sont les deux écrivains et qui sont actifs pour la libération de Gino. Je vous passe la parole.
Quentin.
Le comité français pour la libération.
Le comité pour la libération de Gino.
Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Et merci aussi à la Ligue des droits de l'homme de nous recevoir. Notre camarade et ami Gino est au centre pénitentiaire de Fresnes depuis maintenant 3 mois. Comme vous le savez, la Hongrie demande l'application du mandat d'arrêt européen pour qu'il soit jugé dans ce qu'on appelle l'affaire Budapest, où des militants et militantes sont menacés. Il est accusé d'avoir participé à des violences contre des militants néo-nazis en février 2023, en marge du jour de l'honneur. Cette journée, pour un petit rappel, commémore la défaite des troupes nazies et leur allié hongrois face à l'armée rouge en 1945. À cette occasion, des groupes néo-nazis de toute l'Europe ont profité pour se retrouver. Cette année, le samedi 8 février, cette commémoration a réuni plus de 4000 personnes. Le gouvernement de Viktor Orban autorise cette journée et celui-ci est même soupçonné de contribuer à son financement. Et concernant la Hongrie et son gouvernement illibéral d'extrême droite, il est important de souligner plusieurs éléments. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban et son parti, le Fidesz, n'ont cessé de mettre à mal les libertés individuelles, les institutions démocratiques de ce pays et des groupes spécifiques de la société civile, comme les minorités de genre et les personnes migrantes. Viktor Orban est aussi accusé de révisionnisme historique, par exemple quand il s'agit de la responsabilité de l'État hongrois vis-à-vis de l'Holocauste. En 2017, il a fait les louanges de Miklós Horthy, dirigeant hongrois qui avait fait alliance avec Adolf Hitler. Les relations entre la Hongrie et l'Union européenne ne sont d'ailleurs pas au beau fixe. En 2022, la Commission européenne avait gelé plus de 13 milliards d'euros de fonds européens. Les raisons de ce blocage étaient, je cite, « les dérives en matière d'état de droit ». Par ailleurs, cela fait depuis 2018 que le Parlement a voté le déclenchement de l'article 7 contre la Hongrie pour non-respect de l'état de droit. Cette mesure est symbolique, mais le Conseil de l'Europe demande à la Hongrie de revoir sa position sur l'état de droit et de montrer qu'il n'y a pas un risque clair de violation grave de cet état de droit, ce que la Hongrie peine visiblement à prouver. Il n'en reste pas moins que c'est le mécanisme le plus radical ayant jamais été appliqué à un pays de l'Union européenne. La liste des multiples violations de la démocratie et des droits de l'homme est longue. La remise en question de l'indépendance de la justice, de la liberté des médias, de la liberté médiatique, ou du sort fait aux migrants et à ceux qui leur portent assistance. Les droits les plus élémentaires sont bafoués, dans un pays où l'extrême droite est au pouvoir et qui tend de plus en plus vers une forme d'autoritarisme. En 2024 également, le rapport du comité anti-torture du Conseil de l'Europe faisait état de cas de violences physiques sur les détenus dans certaines prisons hongroises. Il constate des violations du droit international et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Les conditions de détention nous ont été données à voir à travers le cas d'Ilaria Salis, détenue pendant une quinzaine de mois, et accusée pour les mêmes raisons que Chino. Elle a décrit des conditions de détention inhumaines, des violences physiques, un espace insalubre, un accès restreint aux conditions nécessaires pour la survie, l'air, la nourriture, l'hygiène, ainsi que des sévices psychologiques qui s'apparentent à de la torture blanche. Ilaria a été présentée à son procès enchaînée et tenue en laisse. De plus, elle a été présentée comme coupable avant son procès par le gouvernement hongrois lui-même, l'accusant d'être une terroriste communiste. Ce qui contrevient à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, où la justice est indépendante du pouvoir politique. La Hongrie en fait donc une affaire politique. Avec tous ces éléments, nous exigeons d'abord que le mandat d'arrêt européen ne soit pas appliqué, mais surtout que Gino soit libéré immédiatement. Il est un militant antifasciste de nationalité albanaise, même s'il a grandi la quasi-totalité de sa vie en Italie. Et il serait trop facile pour la France et la justice française de se dédonner en refusant de le libérer, et en laissant la possibilité aux autorités françaises d'ordonner son expulsion vers l'Albanie. Finalement, cela reviendrait à appliquer le mandat d'arrêt européen de manière détournée, puisqu'il y a de grandes chances que la Hongrie demande à l'Albanie d'extrader Gino une fois là-bas. Dans ce cas, il est probable que l'Albanie réponde favorablement aux requêtes des autorités hongroises. La justice française sera alors lavée de toute responsabilité dans cette affaire, tout en sachant le sort qui pourrait être réservé à Gino dans les prisons hongroises. Et pour conclure, notre message et notre volonté sont clairs. Nous exigeons la libération de Gino. Merci.
Donc je vais prendre la parole. Je suis l'un des deux avocats de Gino. L'audience qui va avoir lieu dans deux jours, c'est pas la décision qui va être prise. En fait, ça va être le fait de revenir sur les compléments d'information qui ont été ordonnés par les juges français le 15 janvier 2025, des compléments d'informations, donc des informations qu'ils ont demandé à la Hongrie pour nous rassurer évidemment sur les conditions de détention qu'il aurait s'il était remis à la Hongrie, sur sa protection en tant que militant antifasciste en détention en Hongrie, et très intéressant sur les risques qu'il existe d'atteinte au droit au procès équitable, au vu évidemment de toutes les déclarations qu'il y a eu des personnages politiques hongrois à l'encontre des personnes poursuivies dans cette affaire. Moi, je vais revenir sur les enjeux de la mobilisation. C'est très important de se mobiliser au-delà juste de nous, notre travail dans l'enceinte judiciaire. Il faut rappeler que Gino, il a été arrêté par la police antiterroriste, ce qui démontre une velléité très politique et l'utilisation de moyens extraordinaires pour essayer de l'atteindre et pour suivre les ordres des autorités hongroises. Ça nous inquiète évidemment sur les suites qu'il pourrait y avoir en cas de refus de remise. S'agissant de la situation personnelle de Gino qui est albanais, il est quand même titulaire d'un permis de résidence permanent qui lui permet normalement de se déplacer en Union européenne. Mais on s'inquiète évidemment en cas de refus de remise qu'il soit placé en CRA et qu'on l'envoie en Albanie. Et comme l'a dit Quentin, que ce soit un moyen détourné d'exécuter ce mandat d'arrêt européen. On a une mobilisation qui existe maintenant avec cette conférence de presse, mais qui a existé avant avec une tribune où il y a eu plus de 500 personnalités, un vrai réseau qui s'est créé. Je pourrais citer Annie Ernaux, même Christiane Taubira ou Ken Loach qui ont signé cette tribune, ce qui est très intéressant et qui démontre en fait qu'il y a une vraie volonté politique d'éviter à Gino les sévices qu'il pourrait subir en Hongrie. Donc il faut continuer sur la question du mandat d'arrêt européen. Mais il faudra continuer évidemment s'il est placé en CRA, et c'est ce qui nous inquiète.
Alors oui, en effet, l'audience de demain est une audience qui présente un enjeu important parce qu'il s'agit d'un nouveau débat qui sera organisé sur la demande des autorités hongroises de remise de Gino à leurs autorités judiciaires. Et c'est très important parce que lors de la dernière audience, les juges français ont demandé aux Hongrois à obtenir un certain nombre de garanties que s'il était renvoyé en Hongrie, il serait jugé de manière équitable, avec à la clé des peines d'emprisonnement excessivement lourdes qui seraient prononcées. Ce qui nous fait dire cela, alors qu'il faut le rappeler, on est en présence de blessures qualifiées par les Hongrois eux-mêmes d'assez modérées, puisqu'elles ont occasionné pour deux personnes des blessures qui ont été soignées en quelques jours, 5 jours pour l'un et 6 jours pour l'autre. On a des qualifications pénales qui sont choisies par les Hongrois qui sont totalement disproportionnées et qui permettent de condamner les uns et les autres jusqu'à 24 années de prison. Et ce n'est pas un risque purement théorique, puisque Hilaria Salis, lorsque elle était en Hongrie et qu'elle a commencé à être jugée, les autorités judiciaires lui ont fait une proposition de ce qu'on appelle un genre de plaidé coupable, c'est-à-dire qu'on en terminait si elle acceptait de purger 11 années de prison, pour des faits qui sont contestés par ailleurs. Et ce qui se profile pour Gino, c'est le même genre de traitement. Cette expérience a été vécue et vécue actuellement également par Maya, qui a été extradée par les autorités allemandes dans des conditions rocambolesques, à tel point d'ailleurs que la Cour constitutionnelle fédérale allemande vient, par une décision du 25 janvier, de déclarer que cette extradition s'était faite en violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment du risque qu'elle soit soumise à des traitements inhumains ou dégradants en détention. Et bien Maya, qui sera présentée à un tribunal hongrois le 21 février prochain, s'est vu proposer pour les mêmes faits strictement une peine de 14 années de prison si elle acceptait de plaider coupable. Donc l'enjeu est extrêmement important parce que ce risque d'une sanction disproportionnée est là, et puis surtout, compte tenu de l'activisme des autorités politiques hongroises dans cette affaire, on a du mal à croire que les juges qui sont saisis pourront agir de manière indépendante. Il faut quand même rappeler que depuis ces faits, Hilaria et ses camarades se font injurier matin, midi et soir par Viktor Orban lui-même et sa milice numérique sur les réseaux sociaux, qui les traitent tour à tour de terroristes, d'assassins et, dans leurs meilleurs jours, de communistes, ce qui, dans leur univers mental, doit représenter l'injure suprême et indépassable. Tout est réuni pour que ça se passe mal, pour que ça se passe de manière inacceptable, et donc tout est réuni pour que les juges français ne renvoie pas Gino vers la Hongrie. La partie n'est pas intégralement livrée. Les juges français se sont engagés dans une voie qui est une voie équilibrée en demandant, ce qui est assez rare, aux Hongrois d'apporter des garanties sur le respect des droits fondamentaux qui seraient accordés à Gino s'il était renvoyé, détenu et jugé en Hongrie, au premier rang desquels le respect de sa présomption d'innocence. C'est mal parti quand on voit à quel point les autorités politiques hongroises s'activent sur les réseaux. L'exemple le plus récent, il a eu lieu il y a 2 jours, lorsque le porte-parole du gouvernement, de M. Orban,
un certain, vous le connaissez, son nom, moi je ne l'ai pas retenu encore complètement, Zlatan Kovacs. Sur son compte X, je ne sais pas si c'est visible ici, après que Hilaria Salis a donné une interview à la télévision italienne à l'occasion de la sortie de son livre de témoignage, la présente dans un grossier montage enchaîné et derrière des barreaux, avec le commentaire suivant, d'une parfaite finesse, « Votre place est là et non pas à la télévision ». Voilà le contexte dans lequel Léon Groix demande que leur soit envoyé Gino. Il a subi le même genre de sort. Hein. Il est moins visible que Hilaria Salis, mais il a subi le même genre de traitement et le même genre de commentaires de la part des mêmes autorités, notamment de ce porte-parole du gouvernement Groix. Alors, les autorités françaises, elles ont dit « Assurez-nous que les choses se passeront de manière équitable et assurez-nous, c'est le point le plus important, que s'il vous était renvoyé, et s'il était détenu dans l'attente de son jugement, Gino Abazage ne serait pas en danger. C'est-à-dire que sa sécurité physique serait préservée compte tenu du militantisme et des opinions politiques avérées, qui sont les siens. » La Hongrie n'a pas été capable de répondre sur cette question. C'est-à-dire qu'elle a répondu aux différentes demandes qui ont été adressées par les Français le mois dernier, très vite, et sur ce point, elle est restée parfaitement silencieuse. C'est le meilleur aveu qu'elle n'est pas capable d'assurer sa sécurité et que probablement elle ne le veut pas. Qu'est-ce qui explique cet activisme frénétique des autorités politiques autour de cette procédure judiciaire? Qu'est-ce qui explique que les Hongrois aillent chercher des peines aussi disproportionnés contre les uns et les autres? Ils les veulent en trophée. Ils veulent les offrir en trophée à la frange la plus radicale de leur électorat, à la frange néo-nazie de leur électorat, et c'est la seule explication à cet activisme. Voilà. Il est impossible que les uns et les autres soient jugés dans des conditions équitables dans ce contexte-là. Et il faut rappeler que les autorités judiciaires milanaises qui étaient saisies d'un mandat d'arrêt européen qui visait l'un des camarades de Gino et de Hilaria Salis, Gabriele Marchesi, a refusé de l'extrader, de le remettre à la Hongrie, précisément pour ce motif, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir des garanties quant à la sécurité physique qui serait assurée à Gabriele Marchesi s'il était remis et détenu, compte tenu des opinions politiques qui sont les siennes. Donc nous attendons évidemment des Français qu'ils agissent en cohérence et qu'à leur tour, ils refusent la remise de Gino et qu'ils le remettent en liberté. Voilà l'enjeu de l'audience qui se tiendra après-demain.
Mon impression est que cette affaire s'inscrit dans une dérive complètement folle qui a été entamée il y a quelques années, qui consiste en deux mouvements parallèles. D'une part, la criminalisation de la gauche sous toutes ses formes, individuelles, collectives, des intimidations des manifestants, des militants. J'ai relevé ce que disait Quentin. Quentin nous disait que la Hongrie avait fait face à des sanctions, on avait gelé 13 milliards, hein, que c'était la sanction la plus radicale produite contre un pays par l'Union européenne. Alors j'imagine que c'est vrai techniquement, mais concrètement, je ne crois pas. Je crois que la sanction la plus radicale qui a été produite contre un pays européen, c'était la Grèce en 2015. Et quel avait été le crime de la Grèce en 2015 ? Ça avait été de vouloir relever la pension des retraités. Pour ce crime, on avait fermé toutes les banques de la Grèce. À ma connaissance, on n'a pas fermé toutes les banques de la Hongrie. Je ne sais pas si ces 13 milliards ont été dégelés depuis, mais enfin, la Hongrie, qui a été convaincue d'atteinte à la liberté d'expression, aux droits des minorités. Et donc là, aujourd'hui, j'apprends que... on lui demande des garanties. Alors, de quelles garanties il s'agit? J'ai essayé de reformuler pour que on saisisse bien de quoi il est question. Donc, on demande la garantie qu'un jeune homme accusé d'avoir participé à des violences contre des militants néo-nazis bénéficiera d'un procès équitable dans un pays gouverné par l'extrême droite. Ce serait comique si l'enjeu n'était pas la liberté de ce jeune homme et des années de prison, des dizaines d'années de prison. J'ai toujours ce réflexe d'essayer de comprendre l'actualité en pensant à l'histoire. Et j'ai pensé à la guerre d'Espagne. Alors la France, c'est pas spécialement illustré dans la guerre d'Espagne, mais tout de même, après la défaite des républicains espagnols, elle a eu un minimum de courage et de générosité pour accueillir les réfugiés espagnols. Alors, courage et générosité relative, puisqu'elle a commencé par les parquer dans des camps. Mais enfin, au moins, elle ne les a pas renvoyés. Elle ne les a pas renvoyés chez Franco, elle ne les a pas renvoyés dans un pays où ils risquaient la prison et la mort. Voilà, et donc ma question est la suivante. De quel courage, de quelle générosité en France, la France est-elle encore capable aujourd'hui ?
La, 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 la.
Alors le mandat d'arrêt européen a été institué en 2002 afin de renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Il s'agissait d'étendre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Mais une telle reconnaissance suppose que les décisions judiciaires sont prises partout sur la base de droits démocratiques à peu près équivalents. On aurait pu espérer que la coopération européenne permettrait une harmonisation des législations favorables aux libertés publiques. Cela ne s'est hélas pas produit. Depuis 2010, l'extrême droite s'est implantée dans plusieurs gouvernements européens, à la tête des exécutifs italiens, hongrois et belges. Elle participe à des coalitions gouvernementales aux Pays-Bas, en Finlande et en Slovaquie. Il existe par ailleurs en Italie d'importantes dispositions du droit pénal héritées du droit fasciste et qui n'ont jamais été supprimées. Dans le contexte actuel, le mandat d'arrêt européen devient donc une procédure délicate et à bien des égards dangereuse, puisqu'elle incite mécaniquement à collaborer avec des gouvernements d'extrême droite ou des régimes autoritaires. Le cas de Reginaud Abazage concentre en lui tous les périls, toutes les absurdités de cette situation. La justice hongroise a émis un mandat d'arrêt européen contre Reginaud Abazage. Il est accusé d'avoir participé à des violences contre des militants d'extrême droite. Réfugié en France, il a été arrêté le 12 novembre par une équipe de la sous-direction antiterroriste. Rappelons que son inculpation en gris repose sur sa participation, comme ça a été dit, le 11 février 2023 à une manifestation contre un rassemblement néo-nazi entendant célébrer la mémoire des SS. Reginaud Abazage est aujourd'hui enfermé à la prison de Fresnes. Ses avocats réclament sa mise en liberté et déclarent que le mandat d'arrêt européen émis à son encontre ne peut pas être exécuté, puisque la justice et les prisons hongroises ne répondent en aucun cas aux critères exigés. Dans le même cas que Reginaud Abazage, Hilaria Salis a été arrêtée à Budapest à l'issue de la même manifestation. Elle est accusée de tentative d'agression et de faire partie d'une organisation d'extrême-gauche. Elle risque, comme on l'a dit, jusqu'à 11 ans de prison. On voit qu'il existe tout d'abord dans ces affaires une ambiance générale que l'on est bien obligé de qualifier de délirante. Voici dans un cas une femme arrêtée pour tentative d'agression sur des militants néo-nazis célébrant l'ASS et qui risque, elle et non pas eux, 11 ans de prison. Dans le cas de Reginaud Abazage, une équipe de la sous-direction antiterroriste arrête un militant antifasciste pour le remettre à la Hongrie, État dont tous les médias proclament unanimement le caractère autoritaire. Et dans les deux cas, tout se passe comme si la Hongrie devenait brusquement un pays européen comme les autres. Tous les discours tenus sans cesse sur l'illibéralisme d'Orban se volatilisent dès qu'il s'agit de défendre les droits et les libertés les plus élémentaires. Lorsqu'il redécoupe la carte électorale, hésite à soutenir l'Ukraine, refuse les sanctions contre la Russie ou félicite Trump, on le juge dangereux pour la liberté. Mais on continuerait de pratiquer avec son régime un échange poli de prisonniers comme si de rien n'était, comme si, par un étrange tour de passe-passe, le respect des libertés ne concernait ni les accusés ni les détenus. Mais alors, qui cela concerne-t-il ? Voici la version kafkaïenne de cette histoire. La police française, antiterroriste, arrête un militant antifasciste pour le remettre à un État autoritaire, où il risque une peine absolument disproportionnée avec les faits qui lui sont reprochés par une justice que domine très largement le parti au pouvoir. Ici, tout marche à l'envers, toutes les fonctions sont perverties. La police antiterroriste arrête un antifasciste pour le remettre à un État autoritaire au nom de la coopération européenne qui devient de fait une valeur supérieure à la liberté humaine. On oublierait presque que la Hongrie a été épinglée plusieurs fois pour ses mauvaises conditions d'incarcération et qu'à son procès en Hongrie, la jeune militante italienne était enchaînée au tribunal. En résumé, nous vivons des heures étranges où les procédures censées créer un espace commun, une justice commune, sont en réalité les outils d'une politique aveugle et répressive. On remettrait des accusés à n'importe quel régime sous prétexte que le pays fait partie de l'Union européenne. On s'en tiendrait strictement à des données formelles, à des affirmations gratuites et qui vont pourtant à contre-courant de tout ce que nous savons. Car personne n'ignore ce qu'est le régime de Viktor Orban. Personne n'ignore son accaparement du pouvoir, la manière dont il corrompt le fonctionnement de l'État hongrois. Cela fait sans cesse la une de la presse. Nul ne peut donc faire comme s'il s'agissait d'une démocratie libérale. C'est ce qui explique la très forte mobilisation autour de Reginot à bas âge. Dans cette affaire, tout le monde sait aussitôt à quoi s'en tenir. Et toutes les fables inconsistantes que le régime hongrois pourrait raconter à propos de sa justice et des conditions d'incarcération ne peuvent convaincre personne. Reginot à bas âge ne peut pas être remis à la Hongrie. Pour le moment, la procédure se déroule comme si la Hongrie était un interlocuteur normal. Les magistrats ont demandé à la Hongrie des informations sur les conditions d'incarcération comme la procédure le prévoit. Mais si les magistrats ne peuvent faire autrement que de suivre les procédures et donner le change, cette demande n'en est pas moins une absurdité. On réclame des justifications que l'on sait impossibles. On réclame une réponse dont on ne peut pas ignorer la mauvaise foi. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. En réalité, si l'on s'en tenait au principe, jamais Reginot à bas âge n'aurait dû être arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt émanant d'un régime qui se réclame lui-même de l'illibéralisme. Jamais il n'aurait dû être arrêté par la police antiterroriste. Jamais il ne devrait se trouver à Fresnes. On parle sans cesse de transparence. Mais lorsqu'on est face à un cas tout à fait clair, lorsqu'on y voit parfaitement bien, lorsqu'il n'y a aucun doute sur le choix à faire, on se conduit comme s'il fallait éclaircir le problème, en savoir davantage. On se comporte comme si la justice, la vérité, les faits étaient des choses purement formelles et qu'il fallait avant tout s'en tenir aux procédures. Quitte à maintenir quelqu'un en prison un peu plus longtemps, quitte à réclamer des renseignements inutiles sur des choses que l'on connaît parfaitement, quitte à faire comme si l'on devait résoudre une question alors qu'on a déjà la réponse. Il faut que Reginot à bas âge retrouve la liberté.
Pratiquement tout a été dit. Du point de vue de la Ligue des droits de l'homme, il était évident de soutenir et de participer à cette mobilisation. Pourquoi ? Parce qu'elle a émis dès le départ des réticences très formelles sur le mandat d'arrêt européen. Elle a déjà participé à une mobilisation sur le cas de Aurore Martin, il y a 15 ans, qui était une Française, qui a été accusée par les autorités espagnoles d'avoir participé sur le territoire de l'État espagnol à des réunions avec Herri Batasuna, c'est-à-dire les nationalistes basques, alors que Herri Batasuna n'était pas une organisation illégale en France. La justice espagnole ne pouvait pas présenter les garanties d'équité dans le jugement de quelqu'un qui était poursuivi pour des liens avec les nationalistes basques. Dans ces histoires-là, la Ligue des droits de l'homme est opposée à que des cas créent des habitudes et un contexte permettant leur généralisation à d'autres cas, aujourd'hui, demain, entre d'autres pays, etc. C'est d'autant plus vrai que nous sommes dans un contexte où s'est affirmé, on l'a vu cette année, un courant des droites radicales, au-delà de leur fragmentation organisationnelle. Donc on a un courant idéologique qui se structure et qui va de Trump et ses amis de la droite républicaine aux amis d'extrême droite des Netanyahou, en passant par le gouvernement hongrois et l'ensemble des groupes d'extrême droite européens qui sont administrativement séparés, mais qui partagent sur le fond toute une série de conceptions fondamentales. Et c'est le contexte dans lequel, ce qu'a parfaitement expliqué Éric Vulliard, il ne faut pas que se crée cet espace européen d'extradition. Parce que créer cet espace européen d'extradition, cautionner son existence, revient à revenir sur l'état de droit et sur des garanties. Et la Ligue des droits de l'homme se caractérise par ses mobilisations pour l'universalité des droits et leur effectivité. Et leur universalité et leur effectivité sont en cause dans la situation des gens. Pour nous, c'est quelque chose d'absolument évident, qui ne se discute pas, La pétition avec les 300 personnalités a été signée par la présidente de l'LDH, par le vice-président et par les anciens présidents et présidentes actifs aujourd'hui à la LDH. Nous sommes à fond dans cette campagne et il ne faut donc, c'est la conclusion du communiqué qui est signé aujourd'hui et qui est à la porte, il ne faut donc pas simplement empêcher l'extradition de Gino. Il faut qu'il soit impérativement remis en liberté.
Est-ce que vous avez des retours sur la détention de Maya en Hongrie et sur ses conditions de détention, etc.
Oui, on a fourni, en fait, dans ce qu'on a préparé pour l'audience d'après-demain, une attestation qu'elle a faite qui est assez complète, où elle retrace tous les éléments qu'elle vit actuellement en détention en Hongrie, qui répondent parfaitement à ce qu'a développé le CPT dans son rapport de décembre 2024. C'est-à-dire qu'on a une analyse de l'Union européenne sur les conditions générales de détention en Hongrie. Et on a une personne qui est dans le même dossier que Gino, dont les conditions de détention correspondent parfaitement à ce qui est critiqué par le comité contre la torture. Ça a été le fait qu'elle soit isolée, qu'il y ait une caméra qui était installée dans sa cellule 24h/24 qui l'a filmée, des mauvais traitements du fait de l'isolement, le fait qu'elle était enchaînée à chaque déplacement, à chaque fouille, chaque fois qu'elle devait voir quelqu'un, voir le médecin, elle est enchaînée. Et ça, c'est des problématiques qu'on a vues dans le dossier d'Ilaria quand elle était présentée au tribunal. Mais en fait, c'est aussi au cours de la détention qu'on les entrave continuellement. Les conditions dans la cellule, le fait qu'il n'y ait pas de luminosité adéquate, tout est sombre, elle ne peut pas lire. Enfin, c'est très très complet. Et on comprend que sur les mauvais traitements, la Hongrie n'a pas avancé. Et ça s'applique à Maya, ça s'appliquera à Gino s'il est envoyé là-bas.
Et puis il y a la question des mauvais traitements. Il y a la question de la possibilité d'y remédier, c'est-à-dire d'exercer les recours effectifs. Et le témoignage, la partie la plus éclairante du témoignage de Maya porte précisément sur l'impossibilité d'obtenir des recours effectifs, c'est-à-dire, et notamment sur un des points qui l'a, je pense, le plus perturbé, c'est-à-dire la caméra qui l'observait en permanence dans sa cellule. Elle a réclamé des justifications légales. Elle a demandé sur quel fondement on lui imposait ce traitement-là. Elle n'a pas pu obtenir de réponse fiable. Elle s'est employée à contester cette décision longuement, en vain, sans réponse. Et puis, elle a fini par faire dire par une juridiction hongroise, mais fort longtemps après, que cette décision était illégale, donc il fallait y mettre fin. La situation interne des prisons n'est pas rassurante, mais la manière dont les juges remplissent leur office qui consiste à réguler, à remédier aux abus n'est pas non plus extrêmement encourageante. Notre seul interlocuteur, ce sont les juges français qui sont enfermés dans une espèce de coopération mécanique obligée avec un régime dont ils ne sont pas dupes. C'est notre seul interlocuteur légitime et c'est le seul qui soit capable de nous apporter une réponse, de remédier à cette absurdité. Donc il n'y a pas lieu pour nous, en tout cas en l'état, d'avoir un contact avec les autorités politiques. Et je dois quand même préciser que indirectement nous avons la manifestation du positionnement de l'autorité politique, puisque l'avocat général à la Chambre de l'instruction, qui, comme vous le savez, dépend de l'autorité exécutive française, du gouvernement, a demandé en première intention, ce qui est extrêmement rare, a demandé en première intention, lors de la première audience, à ce que Gino soit remis immédiatement aux Hongrois, sans autre forme de vérification. Et je le redis, c'est très rare. C'est très rare. Il est assez fréquent. Il est assez habituel que l'avocat général, lorsque les mandats d'arrêt européens émanent de pays qui, comme la Hongrie, ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de leur prison, il est assez habituel que l'avocat général dise « demandons des vérifications » aux conditions dans lesquelles celui-ci sera détenu. Ce qui est une espèce de jeu de dupe. Vous avez tout à fait raison, M. Villard. Je veux dire, on sait très bien ce qu'il en est. On sait très bien que les garanties qui seront apportées n'engagent que ceux qui y croient. et personne n'y croit. Voilà. Mais c'était une espèce de passage obligé. Voilà. Il faut que les cases soient cochées. Mais là, l'avocat général s'est y compris affranchi de cette habitude-là. C'est-à-dire qu'il a... Alors, ce qui est pour nous un peu préoccupant, bien sûr, et ce qui nous interroge, d'autant que, vous l'avez signalé, M. Villard, ça fait suite à une interpellation spectaculaire de Gino Lavezzale par la police antiterroriste. Pour des faits qui sont des faits de droit commun, contestés, et assez bénins. On parle de violences qui ont entraîné des blessures qui ont été soignées en quelques jours. Donc ça traduit aussi quelque chose. Et c'est peut-être une manière pas complètement assumée de la part des autorités françaises de... comment dire, signaler ce dossier, de renvoyer un message supposé de dangerosité, voyez-vous. Donc l'autorité politique, oui, je veux dire, elle laisse la trace de son intervention, y compris l'autorité politique française dans ce dossier, et pour l'instant, ça ne nous donne pas très envie de parler avec elle.
De notre point de vue, il est important de ne pas laisser s'installer la création de précédents, parce qu'on est dans un contexte où c'est évitable. Mais on a un risque d'arriver au pouvoir aussi, une extrême droite en France. Et on est dans une situation où, depuis des années, les pratiques gouvernementales, juridiques et administratives forgent, élément par élément, toutes les possibilités, tous les instruments dont pourrait jouer un pouvoir autoritaire en France si, par malheur, le Rassemblement national et ses alliés gagnaient certaines des prochaines élections. Et ce contexte-là fait qu'il est, au-delà du cas de Gino, absolument nécessaire de bloquer ces procédures, de ne pas laisser s'installer, je ne vais pas dire des jurisprudences, parce que c'est un terme juridique, mais des habitudes et des précédents de la part et de la justice, comme de l'administration française.
On assiste quand même enfin, à une dégradation là, très rapide des conditions politiques. Or, on a tous, enfin je ne parle pas là des gouvernants, mais enfin des gens en général, on a tous évidemment des habitudes, quel que soit c'est le point de vue politique qu'on a, des habitudes de vie, de langage. Le problème, c'est qu'avec des dégradations rapides, ces habitudes deviennent très vite inadaptées. En réalité, même chez ceux qui sont très mobilisés depuis longtemps, puisque là, par exemple, j'ai employé, comme nous tous, le mot, je vois, de disproportionné. Or, en l'occurrence, compte tenu de ce que vous avez dit, vous voyez... disproportionné est lui-même un terme euphémistique, en fait, c'est un terme qui convient, mais vous voyez, qui est sans rapport avec la situation quand on imagine ce que c'est que d'être enfermé 11 ans ou 14 ans en prison dans les conditions que vous nous décrivez, avec une caméra qui vous filme. Vous voyez, on est tout à fait hors du droit et du vocabulaire qui est le nôtre, au fond, qui est le vocabulaire des droits de l'homme, au fond, et de la façon dont les libertés publiques se sont construites. C'est-à-dire, on a vraiment plus d'un temps de retard, en fait, d'une certaine manière. Je songeais, j'ai participé l'autre jour à une émission sur le livre de Johan Chapoutot, là, qui sort et qui concerne l'entre-deux-guerres. Et il y a une chose qui m'a frappé, Bourmeau, dans la suite, dans les idées, au début de l'émission, lit un texte très long où il décrit une situation politique et on se dit, tiens, c'est quoi, c'est la nôtre? Il parle d'une dissolution, une autre, de comment les libéraux s'entendent avec l'extrême droite, etc. Et à la fin, il dit, vous l'avez tous deviné, nous sommes en 1933 dans le livre de Yann Chapoutot, et ça fait un effet tout à fait glaçant, puisque ça nous place dans cette situation bizarre que depuis de nombreuses années tous, on peut se défendre contre parfois des accusations rapides comme ça de fascisme, etc. Enfin, il faut bien trouver des mots, vous voyez, à mettre sur les choses. Parce que, évidemment, face à l'histoire ancienne, là, pour le coup, les choses nous paraissaient disproportionnées. Nous vivons, nous, ici, de façon relativement libérale et paisible, d'une certaine manière. Or, tout à coup, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, quelque chose est en train de se troubler profondément, et on le voit, on serait capable, donc, de livrer des gens à des États dont on sait absolument qu'ils sont non seulement illibéraux, comme on le dit, mais au fond très autoritaires, qui mènent un combat politique réel avec des peines de prison qui relèvent réellement de ce qu'on appelle normalement la dictature. Ni plus ni moins.
Et pour ce qui concerne Gino, si, comme nous le demandons, les juges français ne le remettent pas à la Hongrie, eh bien son procès se poursuivra en Hongrie et non pas en France. Alors ce sera un procès en son absence, probablement.
Mercredi, ça sera juste l'audience, en fait. Après cette audience, ils vont fixer une date pour le délibérer, la décision sera rendue plus tard.
Mercredi, en fait, vont être exposées les réponses ou les absences de réponses des autorités hongroises. Il va y avoir un débat entre la défense que nous représentons l'avocat général. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Et les juges, qui ont connaissance évidemment de ces réponses des Hongrois, vont prendre leurs décisions. À notre sens, il y a trois possibilités. Ou bien les juges diront bon, on donne une chance supplémentaire aux Hongrois, c'est-à-dire qu'on les interroge à nouveau et on leur donne la possibilité d'apporter les garanties qu'ils n'ont pas apportées. Ou bien nous considérons que leur réponse ou leur absence de réponse traduit leur incapacité à traiter Gino de manière acceptable, et donc nous refusons de le remettre à la Hongrie et nous le remettons en liberté. Hypothèse la plus pessimiste, les juges disent nous considérons que la réponse des Hongroises nous rassure suffisamment pour que nous puissions renvoyer Gino en Hongrie, et donc nous acceptons le mandat d'arrêt européen qui nous est adressé.
Moi je rêve d'un autre monde, la terre appartient à tout le monde. Toutes ces doctrines totalitaires qui font de la vie un enfer. Je n'en peux plus de ces mensonges qui nous divisent et qui nous rongent. Qui profitent à la bête immonde, qui attend son heure, tapis dans l'ombre. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Moi j'aime pas les capitalistes qui pillent le monde et l'appauvrissent, qui conduisent le monde au chaos et mettent au pouvoir les fachos. Hey, non, je ne suis pas une marchandise que l'on peut jeter à sa guise. Non, je ne suis pas antisocial, mais je travaille pas pour que dalle. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Moi je n'aime pas les fascistes, les racistes, les capitalistes. Oui, moi je préfère le partage qui rendra les hommes plus sages. Crois-moi, c'est eux les vrais racailles et leur politique libérale qui nous condamne à la misère, à une vie de merde, une vie de précaire. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Je suis antifasciste. On est antifasciste. Je suis antifasciste. On est antifasciste.
Alors on est le 12 février, on est devant le palais de justice de Paris, on est vraiment plus de 50 à attendre la décision d'extradition de Gino, puisqu'elle va être examinée ce jour par le tribunal pour savoir si la Hongrie remplit les conditions de procès équitables et de conditions de détention humaine.
Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes le 12 février 2025 et Gino entame son quatrième mois de détention à la prison de Fresnes. Ça fait 4 mois que nous efforçons de faire entendre sa voix et que son cas ne soit pas passé en silence. Nous avons vu le retour de Trump au pouvoir aux États-Unis et cela renforce les volontés nationalistes et fascistes des dirigeants d'extrême droite européenne qui, le week-end dernier à Madrid, se sont réunis, notamment avec Marine Le Pen, Viktor Orban, Geert Wilders, avec le slogan « Make Europe Great Again ». Avec notamment l'idée de reconquérir l'Europe, de revenir sur les droits des minorités, des LGBT, de fermer les frontières, de faire taire toute voix dissidente et opposition politique. L'illibéral Viktor Orban le fait déjà. Et c'est pour ces raisons que le comité pour la libération de Gino exige que le mandat d'arrêt européen ne soit pas appliqué par la France, mais surtout que Gino soit libéré immédiatement. Comme vous le savez, Gino est un militant antifasciste, de nationalité albanaise, même s'il a grandi la quasi-totalité de sa vie en Italie. Il serait trop facile pour la France et la justice française de se dédouaner en refusant de le libérer et en laissant la possibilité aux autorités françaises de le livrer à l'Albanie. Notre message et notre volonté est clair, nous souhaitons la libération immédiate de Gino. Nous souhaitons également la libération des autres militants et militantes de la Hongrie, en passant par l'Allemagne et en passant par la France. Siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Merci.
On va continuer à une prise de parole avec René Monza de la LDH.
Bonjour. Je voulais dire quelques mots sur le fait que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Gino, c'est complètement Gino. C'est le fait que nous demandons sa libération immédiate et pas simplement le fait qu'il ne soit pas extradé. Et les gens qui sont réclamés avec lui par la Hongrie sont des gens qui risquent en Hongrie des peines sans commune mesure avec les peines pour lesquelles ils pourraient être condamnés si ce dont ils sont accusés s'avérait exact. Et la justice hongroise, un État qui se dit illibéral, ne répond pas aux normes d'équité et de justice, ça constitue de fait un acte de collaboration avec l'État hongrois.
Il va suivre Révolution Permanente, Anas.
Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit le camarade de la LDH, exiger sa libération immédiate, sans poursuite judiciaire, ni ici en France, ni ailleurs. L'incarcération de Gino et son extradition réclamée par Orban et la Hongrie, elle dit quelque chose d'une situation, non pas uniquement en France, mais à l'échelle internationale, d'une internationale réactionnaire qui va de Trump en passant par Milley, Orban, Meloni, l'AFD, etc., etc., d'à travers les camarades comme Gino, de nous dire à toutes et tous, fermez vos gueules. La prochaine fois que vous voulez faire quelque chose, contester le pouvoir, contester l'ordre établi, on vous fera fermer vos gueules. Et c'est pour ça que la solidarité, elle est primordiale. Ce qui m'alerte et ce qui m'interpelle comme vous, je pense, dans cette situation, c'est que c'est la police française et c'est les brigades antiterroristes françaises qui font le sale boulot, notamment pour la Hongrie, ici, qui vont chercher des gens, qui vont aller les mettre derrière les barreaux au service de l'extrême droite. On est dans cette internationale réactionnaire et la France fait partie aussi de cette internationale réactionnaire. C'est Macron aujourd'hui, ça peut être Le Pen ou quelqu'un d'autre demain. Et quand je vous ai dit d'internationale réactionnaire, je pense aussi à ce qui se passe en Allemagne. La camarade, je crois, c'est Maya, qui a été kidnappée, sortie d'Allemagne en hélicoptère, les amis. Pour pas qu'on puisse la juger. C'est quand même un truc de dingue. Et que normalement, on devrait être vent debout, on devrait être non pas uniquement indigné, mais on devrait commencer à savoir comment on passe à l'offensive. Parce que il y a certes une internationale réactionnaire, mais ils ne sont pas si forts que ça. Et notamment ici en France, on voit qu'il y a une crise du gouvernement qui est incroyable, incroyable.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais prendre la parole au nom de Tzedek, un collectif juif anticolonialiste et donc par essence qui est également antifasciste. On est réunis, encore une fois, pour soutenir Gino face au risque d'extradition qu'il encourt et pour dénoncer sa détention profondément injuste. Un sentiment d'indignation nous traverse, constatant l'absence de réaction médiatique massive face à la gravité de cette affaire et surtout ce qu'elle représente politiquement. L'envoi de la STAT, brigade de police spécialisée dans l'antiterrorisme, venue perquisitionner et arrêter notre camarade pour une simple affaire de droit commun, est un signal d'alarme aussi inquiétant que révélateur des dérives de l'appareil répressif et de l'utilisation du mandat d'arrêt européen. Rappelons qu'il est reproché à Gino d'avoir manifesté contre des néo-fascistes hongrois. L'État français collabore donc étroitement avec un régime d'extrême droite, pointé du doigt à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour son autoritarisme. De nombreux observateurs considèrent que la Hongrie n'est plus un État de droit. Elle occupe également une place prépondérante dans la dynamique internationale néo-réactionnaire et ultra-conservatrice, dont elle demeure l'un des principaux laboratoires administrés, qui est considéré aussi comme un modèle pour les administrations de Trump, Poutine, Milley, Meloni, Modi et tant d'autres. À l'instar de celui d'autres militantes et militants livrés à Budapest, ce qui attend Gino s'il est extradé, c'est un traitement juridique et carcéral inhumain, comme en témoigne le cas précédent d'Hilaria Salis ou encore actuellement celui de Maya. La création de précédents pourrait faciliter une organisation internationale de la répression des luttes antifascistes. C'est de ça dont il s'agit dans ce pays qui se fascise à vue d'œil, qui se targue hypocritement d'être le pays des droits de l'homme, où sont panthéonisées des figures de la résistance telles que Missak, Ebeline, Manoukian, où Jean Moulin nous est présenté à juste titre comme un modèle, où nous commémorons tristement les rafles et les déportations qui ont marqué l'histoire européenne. Toute proportion et contexte gardés, Nous réaffirmons que les antifascistes sont les héritiers idéologiques de celles et ceux qui ont résisté et porté ces combats. Ces mêmes raisons qui ont poussé Gino et d'autres à se mobiliser ce jour du déshonneur, où l'extrême droite hongroise la plus radicale défile en abordant fièrement les symboles de l'Allemagne nazie et du régime collaborateur. Nous considérons au contraire qu'il est criminel de laisser des néo-nazis manifester à la gloire des responsables de l'extermination d'un demi-million de juifs, de dizaines de milliers de tziganes, de LGBT ou encore de militants de gauche déportés et exécutés dans les camps. Les criminels, ce sont celles et ceux qui défendent, encouragent ou rendent hommage au parti des Croix Fléchées et au Waffen-SS que le régime hongrois non seulement protège, allant parfois même jusqu'à en réhabiliter certaines figures. Quelques heures avant cette audience, il nous paraissait important de répéter de quoi le combat et la répression qui vise Gino et ses camarades sont le nom. Nous demandons non seulement le refus de son extradition, mais aussi la fin des poursuites et sa libération immédiate, ainsi que celle de tous les militants antifascistes d'ici et d'ailleurs. Liberté pour Gino et tous les antifascistes. Siamo tutti antifascisti. Ouais.
Je suis là pour le collectif féministe révolutionnaire. On est un groupe de militantes féministes et anticapitalistes engagées dans la lutte contre tous les systèmes d'oppression et d'exploitation et contre tous les réactionnaires.
On est là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité féministe et antifasciste. Parce que le combat de Gino contre l'extrême droite, c'est notre combat à nous aussi contre l'extrême droite. La dérive fasciste de la Hongrie est en cours depuis longtemps. L'Union européenne a déjà accusé la Hongrie d'être sortie de l'état de droit en livrant Gino aux prisons hongroises. La France se rend complice d'un gouvernement autoritaire. L'arrestation de Gino et l'emprisonnement de Gino, c'est une arrestation et un emprisonnement de la honte. Cette justice applique les lois d'un état capitaliste à l'agenda de plus en plus dirigé par les idéaux d'extrême droite. Cette justice est une justice de classe. Une justice qui sert les intérêts d'un État bourgeois toujours plus acquis aux idéaux de l'extrême droite. Notre féminisme est anticarcéral et dénonce un système judiciaire qui sert les intérêts du capitalisme, du patriarcat et du néocolonialisme. Nous voulons la libération de Gino. Nous voulons la fin de la répression des camarades antifa. L'autodéfense contre les néo-nazis ne doit pas être réprimée mais encouragée. Elle est notre survie et doit être défendue par toutes les composantes du mouvement social. Seule la lutte paix, seule la convergence et la solidarité nous sauveront. C'est aussi pourquoi, avec la coordination féministe, co-organe national pour un féminisme contre le capitalisme et l'impérialisme, soutenir Gino, c'est défendre un camarade contre une arrestation politique honteuse. Soutenir Gino, c'est soutenir la lutte de tous les jours, de tous les fronts, contre les extrêmes droites françaises, européennes et internationales. Soutenir Gino, c'est soutenir un mouvement de convergence des luttes antifascistes, féministes, antiracistes et anticolonialistes. Soutenir Gino n'est pas une option, mais une nécessité. Soyons le retour des flammes pour battre l'extrême droite, car l'extrême droite ne tombera pas tout seul. Alors organisons-nous pour lui piétiner la gueule. Tant qu'il le faudra, Gino, tant qu'il le faudra, féministe révolutionnaire.
Bonjour à tous et à toutes. Merci à toutes les personnes qui ont organisé l'événement et merci à toutes les orgas et personnalités qui ont pu s'y joindre. Je représente le groupe de Paris de l'Union communiste libertaire et on est présent aujourd'hui pour exiger la levée des poursuites contre notre camarade Gino et le rejet de sa demande d'extradition. Nous sommes avant tout ici parce que Gino n'a commis aucun crime. Manifester contre des néo-nazis, ce n'est pas un crime, c'est un devoir pour toutes les personnes attachées à la liberté, à la justice, à l'égalité. En réalité, ce procès n'est pas le bon. Les vrais coupables, les vrais criminels, ce sont les gouvernements, les partis et les militants d'extrême droite. Ceux qui génocident les Palestiniennes et les Palestiniens et qui bombardent les Kurdes. Ce sont eux que la justice française et internationale doivent condamner plutôt que de s'acharner contre les militantes et les militants qui luttent pour nos droits. Nous sommes ici en tant qu'internationalistes. Quel que soit le pays, nous soutenons nos camarades qui luttent contre l'autoritarisme, le racisme, le sexisme, le capitalisme. Enfin, nous sommes ici en tant qu'antifascistes. L'extrême droite prend le pouvoir ou s'enracine dans de plus en plus de pays, culminant récemment avec l'élection de Trump et de Musk aux États-Unis. En Hongrie, Orban a cadenassé l'État et s'en sert pour imposer son projet nationaliste réactionnaire,
dont l'acharnement juridique et les menaces d'emprisonnement inhumain et de torture contre Gino et ses camarades sont un exemple. En Italie, Meloni tente de criminaliser les militantes et militants syndicalistes, antiracistes ou luttant contre les grands projets inutiles. En France, le RN n'a même pas besoin d'être au gouvernement pour imposer ses mots d'ordre d'une soi-disant submersion migratoire et ses projets de loi racistes et antisociaux. Face à cela, nous luttons et lutterons contre toutes les coopérations entre États fascistes. Nous devons construire la riposte à la base par tous les moyens, comme l'a fait Gino. Soutien pour Gino, liberté pour toutes les prisonnières et prisonniers politiques. Merci beaucoup, merci à Langa.
Chers camarades, chers passants, il y a quelques jours, la journée de l'honneur a de nouveau eu lieu à Budapest. Des néo-nazis défilent dans les rues pour rendre hommage aux nazis et aux collaborateurs. Un hommage qui en réalité signifie surtout de la violence. De la violence envers les femmes et les enfants, envers les juifs et les personnes LGBT+, les cigans et les roms, les anarchistes et les communistes, et particulièrement en cette époque où nous voyons dans la campagne électorale de chaque parti bourgeois une haine contre les immigrés. Une action donc qui propage de la haine et qui représente une menace contre nous tous. Alors que le monde tombe de plus en plus entre les mains des fascistes, Elon Musk fait un salut hitlérien et des partis comme le RN, l'AFD et d'autres partis du mouvement néo-fasciste deviennent de plus en plus puissantes. Les partis bourgeois collaborent à nouveau avec les partis et régimes fascistes. Alors qu'en Allemagne, des centaines de milliers protestent contre l'AFD, ce sont les partis bourgeois qui leur déroulent le tapis rouge et ouvrent la porte à l'expulsion des millions de réfugiés. L'antifascisme n'est plus un choix aujourd'hui. Un antifascisme militant est devenu une obligation. Il ne suffit donc pas de donner sa voix pour le moindre mal. Non, nous devons déjà nous battre pour nos droits et nos libertés. Aujourd'hui, ces jeunes antifascistes comme Gino ici en France sont accusés d'avoir attaqué des néo-nazis, ce qui fait qu'ils sont recherchés depuis 2 ans. Que les accusations soient vraies ou non, l'extradition vers un régime réactionnaire en Hongrie ne doit pas avoir lieu. Il n'y aura pas de procès entre guillemets équitable là-bas. Maya, une personne non-binaire qui a été considérée comme un danger pour la société et a été privée de liberté pendant 14 ans en Hongrie, où elle avait été extradée, décrite dans une déclaration, le harcèlement du système judiciaire et l'injustice qu'elle a subie. Le gouvernement hongrois tente d'aujourd'hui de protéger les néo-nazis et en criminaliser les antifascistes et l'antifascisme. Il ne doit donc en aucun cas y avoir d'extradition du Gino vers les autorités hongroises, tout comme pour les autres antifascistes incarcérés. Encore une fois, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas compter sur cet État et sa justice. Nous ne pouvons pas dire que Gino aura un procès équitable. Nous ne pouvons pas savoir si les droits humains ont encore suffisamment de valeur. Surtout, nous devons réaliser que l'antifascisme des partis bourgeois signifie organiser encore plus activement l'expulsion, la persécution et l'oppression, des millions de personnes de ce pays. L'antifascisme bourgeois signifie prendre les sujets d'extrême droite pour leur programme. Nous devons donc aujourd'hui et à l'avenir nous organiser de manière encore plus efficace et plus active pour faire face aux fascistes. Il n'a jamais existé un mur bourgeois contre les fascistes, mais nous ferons tout pour les arrêter. Que ce soit en Hongrie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Turquie, en Ukraine ou en Russie, nous sommes celui qui lutte et qui luttons pour un avenir meilleur et continuerons à lutter. Donc, lorsque nos frères et sœurs, nos camarades sont attaqués de toute la dureté du système bourgeois, nous ne pouvons pas laisser cela se faire. Nous nous battrons pour leur liberté. Free Maya, Free Neil, Free Moritz, Free Paul, Free Clara, Free Zaid, Free Paula, Free Luca, Free Hannah, Free Johan, Free Toba, Toby et Free Gino. Liberté pour tous les antifascistes emprisonnés et courage et force à tous les camarades. Vive la résistance. Siamo tutti antifascisti.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.